Bonjour, je vais appeler Julien Delmer qui va faire quelques textes de slam. Voilà.
Bonjour, je vais en faire un seul pour ce passage-là parce qu'il dure à peu près 10 minutes, donc c'est ça le temps qui m'est imparti. Donc c'est un texte qui est plutôt bien lié à la thématique, c'est un texte sur la poésie comme outil et comme arme. Ça s'appelle « Le mur s'efface ». Regarde les eaux s'ouvrir à la force de tes yeux, l'écorce des nuages se fendre dans les cieux comme la terre balafrée, la plaie qui murmure. Écoute les satellites sous les ramures des sphères, laisse faire la galaxie et le temps qui s'essuie sur la joue des vieillards, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours un cri, une voix quelque part, une note, un soupir à l'embouchure des fleuves, un effluve, un parfum aux confins de la nuit, un transistor fébrile qui tousse son ennui entre les ondes hertziennes. À travers les persiennes des alcôves déchues, il y a des corps perdus qui troquent leur solitude contre un morceau de lune. Une flamme mouillée aux lèvres des amants, une complainte rouillée à la gorge des mendiants. Les oiseaux mécaniques qui survolent la zone, les kairas électriques crucifiés aux pylônes, les bagnoles qui s'embrasent, la misère qui frissonne. Il y a, si tu le veux, des mots éparpillés, vie revoltant dans l'air et s'écrasant au loin comme des obus. Si tu te sens trop lâche pour le dernier métro, si tu n'oses pas franchir la porte des bistrots de peur qu'elle ne se ferme au nez de ta détresse, si ton cœur te délaisse pour courir dans la brume, si ton amour tire sur sa laisse, si ton bonheur s'enrhume, alors tu peux toujours gueuler et repeindre la zone au pigment de tes cris comme une gouache d'ozone, un tag d'incertitude, une écharde plantée au cul de l'habitude. Crie mon pote, dégosille, postillonne l'ouragan, la vie prend pas de gants, pourquoi est-ce que t'hésites? Arrache les barésies de la nuit qui racole les poumons pleins d'alcool, les bronches capitonnées, la mort dans son faux col de cendres boutonnées, le chien abandonné qui lèche l'horizon. Il y a des saisons qui palpitent sous le givre, de sales contraventions pour tous les oiseaux ivres qui savent même plus leur nom. Il y a des mots, tu sais, il y a des mots pour tout. Pour chaque goutte de sang à la cime de l'hiver, pour chacune des larmes qui remplissent ton verre, pour la moindre blessure, pour la haine, le dégoût, il y a des mots pour tout. Et si tu ne sais pas, peu importe, imagine les mots sous les pavés qui germent et prennent racine, tous ces mots naufragés, ces mots qu'on assassine chaque fois que tu te tais. Chaque fois que tu la fermes, ce sont des mots qui meurent, qui crèvent de n'avoir pas su te ressembler. Ce sont des mots blafards dans leur soleil tremblé, des qui sont trop timides, qui dérivent en silence et s'échouent sur ta langue avant que tu n'y penses. Parce que la fille là-bas est trop belle pour le dire. Parce que ce mec te plaît, tu veux pas qu'il se tire, mais il s'en va quand même. Et les mots sur ta langue sont comme des enfants blêmes, des enfants sans malice, des mots en chrysanthème, des fleurs qui jaunissent à la bouche du malheur. J'ai connu un travelot qui parlait sans arrêt, qui bénissait les rats qui couraient dans ses robes. Il causait aux étoiles en consolant les aubes qui pleuraient dans sa main. Sans demander d'argent, il essuyait un peu les débris de l'humain, comme la sainte épongeait le visage du Christ tombé sur le chemin. Il distillait chaque mot dans l'absinthe des nuits. Il hurlait sous les néons des comptines incroyables, des chansons pleines de sable, de vin et de folie. Des cantiques naissaient de sa gorge silex, des gospels rocailleux remontaient de son sexe et mille bourgeons germaient sur le périphérique. On entendait l'écho des roses dans le lointain et le monde respirait ses belles épidémies, ses bouquets d'infamie, ses roses à peine écloses des jupes d'un tapin. Il est mort un beau jour, pendu à une note un peu trop haute pour lui. Sur une portée mauve, on a couché son corps. Les zombies des sanisettes, les junkies aux veines violettes, les tapineuses de l'étoile morte et les chiens sans collier l'ont servi d'escorte jusqu'à la casse. Dans une voiture fantôme, les mômes l'ont allongé. Ils ont passé leurs doigts sur son visage une dernière fois et ils l'ont aspergé d'essence dans la nuit immaculée. Les flammes dansent, les mots s'élancent, les mots voilés de fumée, les cris, les chants, tambours de mercure, les âmes obscures soudain s'éclairent et se reflètent sur l'acier d'une lame. Les grands yeux pleins de calme se mettent à pleurer, les mômes éplorés serrent leurs poings dans leurs poches, les caïras se cachent pour chialer dans le noir, ne trouvant plus les mots au bout du désespoir. Au petit jour, le poumon froid du terrain vague crache un silence embaumé. La sirène d'une ambulance, un brancard phosphorescent transporte les reliques d'une sainte de la rue, mais les mots résonnent encore sur le pavé et dans le crâne des réprouvés comme un balafon perdu. Les vocables sont le sable sur un temps des galets. Les mots transportent l'écume des vagues en allées comme l'onde enlace l'épave des illusions enfuies. Les mots sondent les fonds de puits, les culs de basse fosse entre la chair et l'os sous la cendre et la pluie. Les mots sont des cories jetés en pâture au hasard, les fragments en guenilles d'un diamant oublié, un diamant d'éternité. Au commencement, le verbe était nu, le verbe était sale, couvert de placenta, du magma d'origine. Il avait sur la peau une odeur clandestine, un parfum de Big Bang, de soufre et d'aubépine. Le verbe engendrait des pays de titans, des mondes éphémères qui mouraient dans l'instant. Le soleil assassin s'enfonçait dans la mer, le verbe était barbare, son fruit était amer. Le sang de la jusquiame à nos lèvres alors, dans un songe d'opium, le verbe prenait corps. Aux dalisques esquissés, aux fusains de l'oubli, dans nos crânes éblouis, les mots s'entrechoquaient, et nous étions debout au milieu des décombres, et nous jetions des mots à la face de l'ombre. L'incendie gangrénait le palais des tyrans, l'infini nous hissait sur l'épaule du vent. Il y avait des oiseaux aux doigts des camarades, des pinsons mutilés qui hurlaient la romance, du verbe fusillé au bout des barricades, de l'aube émerveillée que les mots ensemencent, la récolte de nos larmes, la moisson de nos cris, la révolte des mots proscrits, le verbe qui prend les armes. La poésie doit s'armer, on n'a plus qu'à disparaître dans les froufrous nostalgiques de la récitation scolaire. La poésie, même pour chanter l'amour et le lys virginal, ne peut se départir de cette émotion rouge sang. La poésie est une déflagration, une défloration. Elle plane au-dessus des règles et des convenances, dans l'oxygène naissant dont s'enivrent les albatros et les adolescents. Voici venu le temps des poètes insurgés, des chevaux au galop de braise. Je veux des rimes qui claquent comme des kalachnikovs, des quatrains qui défient les lois d'apesanteur. Je balance vers le vide mes poèmes molotov, comme le rap qui jaillit de mon ghetto blaster. La poésie est vivante, frémissante, rugissante, haletante, trépidante, virevoltante, séduisante, élégante, combattante, captivante, violente, bouleversante, bouleversante, mais jamais, jamais innocente. L'innocence n'existe pas. Le sang est la preuve que rien n'est innocent. Rien, et surtout pas l'enfance. Ce pays sans frontières où se construit l'avenir. Ce pays ravagé par le napalm de la nécessité. Un jour, il nous faudra en finir avec la nécessité. Il nous faudra tisser entre nos doigts de sable des rêves sans couture aux couleurs de l'enfance. Noir, noir comme l'espérance, comme le feu de l'autre rive. Laissez les enfants jouer avec le feu. Laissez les enfants jouer avec le feu. Laissez les enfants jouer avec le feu. Ce feu-là, nous l'avons oublié, trahi, renié. Parfois, lorsque la mélancolie gerce nos habitudes, un goût de métal froid se mêle à la salive. Les mots s'entrechoquent dans nos bouches, mais rien ne sort. Rien, ou juste un truc pas net, pas propre, pas poli, pas convenu, pas convenable. Ce truc, c'est la poésie. La poésie, c'est le mot qui brûle. C'est l'enfance rendue à sa révolte. Merci beaucoup. Bonjour, je vais faire deux textes. Le premier, c'est un texte que j'ai écrit après mon expérience d'animation d'atelier dans le milieu carcéral, notamment à la maison d'arrêt de Loos, au centre de détention, c'est quoi que, de Loos et à la maison d'arrêt de Douai. Donc ça a été une expérience pour moi, ça remonte déjà à 4 ou 5 ans, mais qui a été... vraiment charnière parce que j'étais justement confronté à ce souci au départ dans ma volonté d'animer les ateliers, d'amener très naïvement les participants aux ateliers, donc les prisonniers, à une langue académique, à une langue formatée, et dans un souci, voilà, peut-être d'intégration, de réinsertion même, comme il y a cette dimension-là en prison. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, je passais avec cette démarche-là à côté d'une langue qui était spécifique à la prison. La prison, de même que d'ailleurs elle développe des savoirs assujettis, comme par exemple tout simplement faire un réchaud à partir d'une boîte de sardines et d'huile d'olive, construire, moi j'ai vu des gens faire des 4 quarts avec des boîtes de conserve, enfin des passer des yo-yos, des choses comme ça, qui ne servent peut-être strictement à rien à l'extérieur, mais qui en prison sont absolument indispensables. De même, il y a une langue spécifique au milieu carcéral, qui n'est pas seulement faite d'argot d'ailleurs, hein, qui est faite d'un mélange de la langue administrative de la prison, d'argot et de français, et qui est une langue qui est absolument indispensable pour évoluer en prison. Donc à la limite, je dirais que le prison, c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que c'est une zone d'absolu non-droit en République, c'est que tout ce qu'on apprend dans le système institutionnel scolaire, que ce soit la langue ou les savoirs, ne permettent pas d'évoluer dans le cadre de la prison, qui est vraiment un monde à part, une hétérotopie, comme dirait Foucault. Voilà, donc c'est vrai, je crois, c'est lui. Ok, donc voilà, donc ce texte-là, donc voilà, s'appelle Accord perdu, il m'a été inspiré par ça. Est-ce que je voulais juste préciser une anecdote, parce que ça a vraiment été une claque hein, pour moi, le séjour en prison, d'ailleurs fait beaucoup d'ambiguïté, parce que la prison, enfin, à mon sens, est un système qui mérite d'être complètement revu, complètement démantelé, c'est une zone mortifère où on éradique complètement la dimension humaine, et participer à des ateliers, malgré tout, malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir en tant qu'artiste, c'est cautionner quand même ce système tel qu'il est. Donc, pour moi, ça a été vraiment une manière de me positionner qui était très difficile. Et voilà, une anecdote, c'était, j'avais commencé le premier atelier avec, tout content de moi, avec des textes d'Aragon, des Luards, tout ça. Et voilà, et un texte d'NTM, donc. Et bon, on étudie le texte, tout ça. Alors, en prison, il y a quelque chose d'assez terrible, c'est que tous les textes écrits dans les ateliers doivent être présentés ensuite à l'administration, qui contrôle ce qui est écrit. Donc j'arrive, hein, je me présente. Apparemment, le contenu des textes plaisait pas forcément du tout, même à l'administration. Donc la semaine suivante, je reviens et finalement, j'avais intégré aussi cette censure en moi et j'étais revenu avec des textes beaucoup plus lénifiants. J'avais pris, que j'aime beaucoup, hein, Gibran notamment. J'avais pris voilà l'amitié dans le prophète de Gibran. Et là, les prisonniers m'ont arrêté. Il y en a un qui m'a fait, mais t'as fini avec tes textes humanitaires? Donc là, waouh, là j'avoue que ça m'a fait un choc vraiment, et je me suis dit oui, de deux choses l'une, soit on intervient en prison en tenant compte de la spécificité de la langue carcérale et de cette langue, soit effectivement, je pense que ramener un français, comment dire, institutionnel, un français formaté, dans une logique pratiquement de comment dire, j'allais dire de presque de catéchisme, finalement je pense que c'était quelque chose qui était complètement paradoxal. Donc voilà, tout ça c'est l'introduction, et le texte en soi que j'ai écrit s'appelle Accord perdu. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé, je te rêve comme un bagnard, un tolard désarticulé. Béton angésine sur les rails de feu, je devine un éclair de givre, je m'enivre de ton secret, je recrée un ciel à ton image, peuplé d'oiseaux mutants aux ailes d'orchidées. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé, je te rêve comme un bagnard, un tolard désarticulé. Je vois des bohémiennes qui jettent leur sourire au visage des flics, la matraque qui claque sur la nuque d'un enfant, le charnier des innocents et la mémoire fossile, les yeux des imbéciles qui voudraient oublier qu'ils sont toujours témoins des cris et des émois, et ce petit vaurien qui jette une grenade, une douce sérénade contre un fourgon blindé. Redonne-moi ton sang, je ferai de ma vie une fresque d'ouragan aux couleurs d'incendie. Redonne-moi ton sang, je ferai de ma vie une fresque d'ouragan aux couleurs d'incendie. Les dépotoirs transgéniques ont la beauté confuse des étoiles qui infusent en secret dans la nuit. Et la lune s'embrouille, se coince dans l'écluse, et l'ennui dans tes bras me semble si lointain comme le rêve d'une putain arrimée au bitume. Une zone de brume, la valse des amants collés sur le ciment. Les banquiers des grands boulevards font des cauchemars affreux. Ils voient tous les lépreux qui réclament leur pitance, ma quittance de noyer. Je l'ai jetée au fleuve, qu'ils aillent la repêcher, car je sais que bientôt, la chanteuse de fado s'envolera vers la mer, et le sel de sa voix bercera nos silences. Je te ferai rimer avec n'importe quoi, avec le bruit du train, le métro qui aboie. Je te ferai rimer avec n'importe quoi, avec le bruit du train, le métro qui aboie. Tes cuisses sont un étau où je brise mes sens, je badigeonne d'essence nos amours de papier. Au parloir, une ombre s'étrangle de souvenirs, le pire est à venir. Ouvrons grand les prisons, la pollution pour tous. Rendons l'air à tous ceux qui étouffent, aux braqueurs de soleil, aux voleurs d'horizon. Je suis au diapason des rythmes de la tôle, des graffitis qui pleurent au pied
des cadenas. Je sais un estuaire plus profond qu'Anatole, dans le cœur des damnés, dans les veines des parias coule le lait noir de l'absence, le dégoût du miroir et la déliquescence. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé. Je te rêve comme un bagnard, un tolard désarticulé. Je te veux à la dure sur un champ de gravats. Je dévore ton image et le mirage s'en va aux frontières de tes paupières, là où la lumière se brise. Dans la brise de ton souffle, j'entends l'écho de la fronde, l'insurrection qui gronde, le poing nu qui corrige, le tambour du printemps. J'ai le cul au mitard et le cœur au mi-temps. La geôle se met à fleurir en pétales barbelés, les bourgeons écartelés, les cicatrices du temps. La tête contre le mur, l'amour à même le sol, le sourire d'un enfant derrière sa camisole. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé. Je te rêve comme un bagnard, un tolard désarticulé. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé. Je te rêve comme un bagnard, un tolard désarticulé. Merci. Le texte suivant s'appelle « Sans papier ». Donc, c'est un texte que j'ai écrit il y a déjà 4 ans de ça. Et donc, comme j'essaie de relier quand même mes textes au thème aussi de la journée ici, moi, cette expérience, ce texte-là, je l'ai écrit vraiment par rapport à un témoignage, en fait. Un témoignage d'une amie qui n'est toujours pas française. Pourtant, ça fait à peu près 10 ans, je crois, qu'elle vit en France, qu'elle est mariée avec un Français, qu'elle a des 2 enfants nés sur le sol français. Mais apparemment, il y a une directive qui repousse encore la possibilité pour elle d'obtenir ses papiers. Et donc, moi, j'habitais Moulins pendant des années, et donc je passais le soir devant la cité administrative, et il y a encore quelques années, j'avoue que je ne savais pas qui étaient ces gens qui attendaient au beau milieu de la nuit. Moi, je revenais d'un bar ou je ne sais pas, et je voyais régulièrement comme ça des cohortes de gens qui attendaient devant le bâtiment de la cité administrative, été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il vente, et je ne savais pas qui étaient ces gens. Et c'est en écoutant après le témoignage de mon amie qui est togolaise, qui, elle, tous les mois ou très régulièrement, devait partait à minuit de chez elle pour arriver à 1h du matin à la cité administrative et attendre qu'à 8h le bureau ouvre et qu'elle soit confrontée comme ça à l'administration. Souvent, il manquait des papiers, etc. Avec les policiers à côté qui surveillent d'un air de policier, on va dire, tout simplement. Alors, voilà. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que là, il y avait quand même... Non seulement je suis sûr que la plupart des gens à Lille ignoraient complètement qui étaient ces gens, ignoraient complètement ce qu'on leur faisait subir, c'est-à-dire une humiliation totale d'attendre 8 heures dans le froid, quel que soit son âge, pour un papier qui le plus souvent d'ailleurs se verra refusé parce qu'il manque un tampon ou je ne sais quelle fantaisie kafkaïenne administrative. Voilà, donc cette humiliation-là, moi je pense que déjà ça, pour moi ça a été aussi pareil, une prise de conscience. Et puis je me suis dit aussi que finalement la langue à laquelle l'étranger qui arrive en France est confronté, c'est pas celle de Rimbaud, c'est pas celle de Baudelaire, c'est d'abord celle d'un formulaire administratif, celle d'une langue rigide, celle d'une langue implacable, quoi. Donc c'est un peu par rapport à ça que je voulais... je dis pas que les étrangers lisent pas Baudelaire ni Rimbaud, c'est pas ce que je veux dire, mais ce qu'on leur demande d'abord, soi-disant les valeurs françaises, qui seraient des valeurs culturelles, universelles, mais finalement ce qu'on demande d'abord de maîtriser, c'est d'abord une langue administrative bête et méchante. Et finalement, c'est face à cette... Parce que la langue peut devenir aussi une machine, pour moi, une machine qu'on oppose et qui est imperméable et qui n'est plus du tout une machine de dialogue, quoi, du tout. Cette langue administrative-là, c'est une langue, pour moi, qui met une barrière. Et donc, c'est à partir de ce constat-là que j'ai écrit ce texte qui s'appelle « Sans papier ». Blessures de bistre fauve, billets à l'encre floue, caillots de malaria obstruant les alvéoles des fétiches d'espérance. Tu rases les murs des faubourgs épaufrés de brouillard, les palissades vermoulues repeintes aux couleurs blafardes de la modernité. Ton ombre te suit, fidèle et flébilante, aussi craintive que toi dans la nuit qui se prolonge. La nuit s'étale sans fin pour tous ceux qui tournent le dos à la lumière, pour chasser sans relâche par l'escadron des masques, sans papier. Avaleur de trottoir, ectoplasme ballotté sur le fil du sabre. Chaque instant te blesse, les néons torves des banlieues dessinent au quotidien ta détresse. Tu dors encore. Oh, je ne te reproche rien. Parfois, il dort aussi quand la fatigue l'électrocute. Ses paupières se ferment contre sa volonté. 4 heures du matin, une cohorte de brume attend au fil de l'aube, fil d'attente interminable, interminable nuit, tous âges, tous horizons, points communs, étrangers, renouvellement de cartes de séjour, récépissés, formulaires, tampons. Une vieille femme éternue sous la lune, un jeune somnole au creux de son blouson, ne pas perdre sa place. 5 heures, on attend, on parle peu, trop froid, la fatigue comme un scalpel qui frotte les nerfs. Parfois on crie, on s'engueule, bousculade sous le regard suspicieux des vautours. Les masques surveillent la moisson des damnés. 7 heures, encore 1 heure à tuer, des volutes circonflexes à scalper en silence. Ta dignité grelotte, on rassemble ses documents, photos d'identité toujours soignées, sourire étudié, cheveux bien peignés, artifices dérisoires pour séduire le Moloch qui ronronne derrière la vitre. Un père de famille rouge de honte pisse discrètement dans une bouteille plastique, ne pas perdre sa place. 8 heures, le bureau ouvre enfin, un minable petit guichet pour contenir l'ardeur des tisons affamés, une petite voix, sèche, mesquine et intraitable. Tu bégayes, tu parles mal ce français de rond de cuir, justificatif de domicile, contrat de travail, certificat de vie commune, tu t'embrouilles, tu protestes, on ne t'explique rien, tu protestes en vain. Attention camarade, les masques t'ont repéré, il vaut mieux t'en aller, tu reviendras demain, ton formulaire dûment rempli, ta dignité agonisante dans le creux de ta poche. 9 heures. Tu ne dors plus. Sans papier, ladre suffocant, projeté, sans crécelle dans le chaudron des villes. Sans papier, pestiféré blotti dans les entrailles d'un gourbi parallèle. Sans papier, traqué dans le métro, partout, dans les ruelles scellées d'angoisse, dans les ramages fourbes des jardins publics et jusque dans tes songes sertis d'aiguilles rouges. À toi les matelas lépreux, les nuits flambées de dysenterie, sortilèges de fosses septiques. Sans papier, fossoyeur à main nue des chantiers d'outre-larmes, pareil aux titans blessés du Congo océan. À toi la double peine, la tôle cannibale, arène tuberculeuse qui crache et drame à vif sur la brique. À toi le charter carcéral qui plane si haut au-dessus de l'humain. À toi la transparence de ceux qui vont mourir, l'estomac dénudé par 60 jours de jeûne, grève de la faim pour un formulaire de papier glacé, une trêve d'un an ou deux, mais jamais, jamais de considération. À toi le souffle court des lutteurs épuisés qui s'abreuvent de poussière quand l'amour se fait rare, mais ne te rendors pas, nous sommes à ta fenêtre. Sucre trompeur, vitrines obscènes dégoulinantes de viande en mouvement. Nous sommes parvenus au bout de nos errances, mais cependant la misère n'a jamais disparu. Elle a simplement retroussé sa peau. Hassan a fondu en larmes au rayon des yaourts. Je sais pas pourquoi il s'est mis à chialer, mais il était effondré. Peut-être à cause de tous ces pots en plastique, toutes ces saloperies d'arc-en-ciel en sucre. Nerf en crise, son visage caché derrière ses mains tremblantes, il pleure. Et moi, appuyé sur son épaule qui fait du mieux que je peux. Autour de nous, des yeux hostiles, des masques tordus ou indifférents. Les vigiles sont arrivés, on nous a fait sortir. Je me rappelle parfaitement du plus grand des vigiles, il était noir, congolais je pense. J'ai essayé de savoir d'où il venait, je lui ai dit de laisser tomber, il m'a juste dit qu'il faisait son boulot. Je me rappelle parfaitement de ses lunettes de soleil, très belles. Oh, il avait de la classe ce vigile. C'est en sortant du supermarché, encadré par la sécurité, qu'on est tombé nez à nez sur les flics. Je sais pas si c'est du hasard, ou si c'est les vigiles qui nous ont balancés. Moi le hasard, j'y crois plus. Pas ici, pas pour nous. Hassan a essayé de s'enfuir, mais il est tombé à cause de la peur, et puis la fatigue sûrement aussi. Moi, je suis resté paralysé. Après, on a eu droit au contrôle d'identité, et puis tout a dérapé. Et la suite, tu connais pas vrai? Non. Tu connais pas la suite? Ça se passe un peu plus loin, hors de tout, entre la vie et la mort, des caméras infrarouges, des chiens, des barbelés, des miradors. Oui, des miradors, oh, ils n'ont peur de rien, tu sais, ni des coïncidences, ni des rictus du passé. Camarade, tu en veux une drôle? Alors écoute ceci. À Rivesalt, à l'ombre des vignes, il y a un camp de rétention, ils appellent cela. Si on nous retient, c'est pour mieux nous expulser après. Mais d'abord, faut nous trier, nous stocker. Au départ, ce camp, c'était une caserne de tirailleurs sénégalais. Un peu plus tard, sous la botte du maréchal, on y a parqué les juifs, les tziganes, les républicains espagnols, anarchistes, communistes et toute la chienlit de l'anti-France. À l'époque, des gens ont raflé. À l'époque, des gens ont déporté. Oh, pas de charter, bien sûr, mais des wagons plombés qui roulaient vers l'abîme. Un peu plus tard, sous la botte du général, on y a parqué les harkis et leurs familles, parce qu'en France on n'est pas ingrat. Ce camp, c'est un véritable livre d'histoire de France, et forcément il pue un peu, le sang, la honte et le non-dit. À présent c'est à notre tour, sans papier, de venir moisir dans les oubliettes de la République. Camarade, camarade, si tu vas à Roissy, avant de t'embarquer pour de belles Amériques, tends un peu l'oreille, écoute les souffles rock échoués à tes pieds, entends les rumeurs du sous-sol, rétention encore, rétention hardcore, torture à l'occasion, odeur rance, des corps humiliés, des corps anémiés, pas de douche, quelques miettes d'obscurité à grignoter, des rires gras, des coups bas, des tampons, des matons, des familles écartelées, des visages de chiffons, fièvre des zones d'attente, la peur épaisse comme la salive du nourrisson malade, écorché de fatigue dans les bras de sa mère, la terreur l'horreur blême de l'embarquement, les menottes greffées au poignet. Camarade, camarade, quelqu'un hurle dans ta nuque. Le grand type, à l'arrière de l'avion, bâillonné par du sparadrap, encadré par deux flics. Il n'est pas en vacances et son nez saigne un peu. Alors lève-toi et hurle, hurle vite avant qu'il ne l'étouffe entre deux oreillers. Hurle aussi au visage de tous ces salauds qui prêtent gracieusement leurs avions pour toutes les sales besognes. Hurle pour lui et pour tous les autres qui attendent dans le noir l'âme comprimée entre la vie et la mort. La mort, ni plus ni moins, charognard d'acier drainant ses poisons par-delà les frontières, lorsque l'on renvoie entre les crocs de l'ombre un journaliste tunisien menacé de toutes parts, lorsque l'on expulse vers son pays broyé de dictature un dissident africain, on les condamne à mort. Dribble maladroit entre les fruits galeux arrachés à la canicule, deux anges sont morts gelés sous le train d'atterrissage, dans leurs crânes éblouis, une particule de sucre. Merci beaucoup.